Je lis le verset 58, mais je vais poursuivre dans le chapitre 16 jusqu'au verset 12. Alors, il va falloir ouvrir vos Bibles quand même. Tout n'est pas sur le mur. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir des dons. Et quand je serai venu, j'enverrai avec les lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem les personnes que vous aurez approuvées. Si la chose mérite que j'y aille moi-même, elles feront le voyage avec moi. J'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine, car je traverserai la Macédoine. Peut-être séjournerai-je auprès de vous, ou même y passerai-je l'hiver, afin que vous m'accompagniez là où je me rendrai. Je ne veux pas cette fois vous voir en passant, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous, si le Seigneur le permet. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Que personne donc ne le méprise. Accompagnez-le en paix, afin qu'il vienne vers moi, car je l'attends avec les frères. Pour ce qui est du frère Apollos, je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous avec les frères. Mais ce n'était décidément pas sa volonté de le faire maintenant. Il partira quand il en aura l'occasion. Ici, la parole de Dieu. Nous achevons donc cette série sur les valeurs de l'EBTM. Et nous avons utilisé les lettres EBTM pour tenter de définir ce qui nous conduit. Le E pour Évangile, le B pour la Bible, le T pour Toulouse et le M pour la mission. On pourrait être tenté de se dire, bon, on a très bien compris l'Évangile. On a compris que l'Évangile, ce n'est pas simplement pour les incroyants, mais c'est pour toute la vie chrétienne. On pourrait se dire, ok, c'est bon, la lecture de la Bible, c'est le fondement de notre foi. C'est notre guide ici-bas. On s'efforce de la lire en entier, de la prêcher. Ok, c'est bon. C'est bon, on a vraiment un cœur pour Toulouse. On veut que le témoignage soit rendu dans toute cette ville, auprès de toute sa population que nous aimons. Et puis la mission, on en parle depuis des années. On y sert, on prie, on donne, on envoie des ouvriers pour la mission. On pourrait un peu s'auto-congratuler, mais ça porterait atteinte à une dernière valeur qui englobe toute celle-là, à savoir le désir de faire de mieux en mieux, de travailler de mieux en mieux. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. On n'est pas arrivé, loin de là. Le contexte immédiat de notre verset, c'est ce chapitre monumental sur la résurrection. Il en est en fait même la conclusion. Il dit « ainsi », faisant référence à tout ce qui vient d'être dit, « ainsi, mes frères bien-aimés, travaillez de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. » En conséquence, mes frères, mes sœurs, travaillez dans l'œuvre du Seigneur. À cause de cette glorieuse espérance qui vous est réservée dans les cieux, travaillez dans l'œuvre du Seigneur de mieux en mieux. Soyez fermes, inébranlables, à cause de cet héritage qui vous est réservé dans les cieux. Versets 51 et 52, il est dit, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. » Incroyable, mais vrai. Il évoque ici cette sublime vérité. Avant le retour de Christ en gloire, les morts ressusciteront. Et nous, les croyants vivants, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, pour aller à sa rencontre dans les airs. Ce sera la dernière touche à notre salut. Ce sera notre glorification. Elle est certaine, elle nous est assurée. Alors, loin de l'attendre, les bras ballants, cette vérité nous stimule dans la foi, dans notre travail ici-bas, dans l'œuvre du Seigneur, parce que le temps nous est compté. Parce que si nous voulons servir, c'est aujourd'hui qu'il nous faut le faire. On peut avoir des projets, des rêves, mais c'est aujourd'hui le jour du Seigneur. C'est aujourd'hui que l'on peut le servir et le glorifier. Quel est le travail ? Oh, le travail, il est grand. J'aimerais regarder trois points que l'on trouve dans le chapitre 16. Il nous faut nourrir une vision, il nous faut faire face à l'opposition, et puis enfin, il nous faut veiller à la cohésion ou à l'esprit d'équipe. Nourrir une vision, voilà notre travail, nourrir une vision. Ça, c'est les versets 1 à 7, grosso modo. La vision de l'apôtre ne se limitait pas à Corinthe. L'apôtre Paul, il embrassait toute l'œuvre de Dieu. Quand il écrit cette lettre, il est à Éphèse depuis déjà quelques années, et il pense à Corinthe. Il est à Éphèse, mais il pense à Corinthe. Il travaille durement, il dit jour et nuit à l'œuvre pour enseigner les Écritures aux Éphésiens, mais il pense encore aux Corinthiens et il leur écrit. C'est-à-dire, dans son cœur, il a élargi son cœur de sorte qu'il peut embrasser toute l'œuvre de Dieu qui se fait. Et connaissant la détresse des frères de Jérusalem auxquels il pense, il encourageait les églises, les mieux loties sur le plan matériel, à prendre soin des plus démunis. Il encourageait donc les églises à avoir chacune une vision d'entraide. Et pour cela, il faut se mobiliser, il faut s'organiser. Si on compte sur notre spontanéité, en fait, le jour où l'on veut donner, on n'a rien. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il enseigne aux églises de Galatie, de Macédoine, de l'Achaïe, de lever une offrande régulière chaque dimanche, et non seulement lorsque les croyants étaient mus par un élan de générosité, parce que leur sensibilité avait été touchée. Non. L'offrande du Seigneur, elle doit être volontaire. Elle est faite sur la base d'une décision personnelle, d'une réflexion. Je veux donner, et c'est pourquoi chaque semaine, je mets à part quelque chose de l'œuvre de tout ce que le Seigneur m'a donné pour l'œuvre de Dieu, parce que je sais que si j'attends que la fin du mois, j'aurai rien pour lui donner. Ou si j'attends qu'il y ait un événement qui arrive pour donner, j'aurai rien à donner. Après avoir évoqué, au fond, l'avenir éternel des croyants dans un nouveau corps et dans le ciel, il aborde immédiatement après cette question de la collecte. Et je crois qu'il le fait parce que c'est intimement lié. Je voudrais citer une parole du Seigneur dans Matthieu chapitre 6, versets 19 et 20. Je lis Matthieu 6, 19 et 20. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Il est en train de dire, regardez comment vous gérez votre argent. S'il y a une réalité, une vérité dans les Écritures, si effectivement nous sommes destinés à la gloire éternelle, si nous vivrons éternellement dans les cieux, et que nous allons devoir laisser tout ce que nous avons ici-bas, Il ne faudrait pas être démuni dans le ciel. Et on peut envoyer des richesses dans les cieux, là où la teigne, là où les voleurs, là où il n'y a pas de bourse. Voilà. Là, ça nous est assuré pour l'éternité. On a aidé un temps une église, on allait prêcher dans cette église régulièrement, et puis un jour le responsable découragé m'a dit « Tu sais, si cette église fermait, personne ne s'en rendrait compte. En fait, elle ne compte pour personne. Hormis le Seigneur auquel il faisait pas mention ici. Je lui ai répondu que ça ne devait pas être le cas. Ça ne devrait pas être le cas. Notre Église devrait compter pour d'autres. Ça devrait faire une différence qu'il y ait une Église. Ça devrait faire une différence dans le quartier. Mais ça devrait faire même une différence dans le monde. J'avais remarqué qu'il ne prenait pas, il ne levait pas d'offrande. Je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que vous ne levez pas d'offrande? Alors il m'a dit, mais en fait, on n'a pas besoin d'argent. La salle nous est prêtée gracieusement. On a juste une petite facture d'électricité, je règle ça, et puis c'est tout. Et puis le serviteur, là, il est retraité, et il a pas de besoin. J'ai dit, mais vous devriez lever une offrande pour des missionnaires. Parce qu'il y a des missionnaires dans le besoin. Vous devriez prier pour eux, les inviter chez vous et les encourager. Et je vous assure, ça ferait la différence. Si chaque mois vous envoyez un soutien, ça ferait une différence. Et si cette église devait fermer ou mourir, ça ferait une différence, au moins pour un missionnaire. Ils ont capté ça. Et puis ils ont invité une missionnaire, et puis ils ont commencé à soutenir son travail. Quel était le problème? Je crois que le problème, ce n'était pas la générosité des gens. Le problème, c'était qu'il n'y avait pas de vision. Il n'y avait pas de vision de l'œuvre de Dieu. Il n'y avait rien à accomplir. Alors quand on n'a rien à accomplir, on n'a pas de besoin. Mais l'apôtre Paul, il nourrissait une vision. Et cette vision, c'était le secours, l'encouragement, l'entraide de tous les frères et la progression de l'évangile dans le monde entier. Et c'est pour cela qu'il encourageait les frères à y prendre une part matérielle. Et puis, l'apôtre Paul, il avait cette pensée constante d'étendre l'œuvre. Ça, c'est les versets suivants. Il dit, verset 5, « J'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine, car je traverserai la Macédoine. » Paul écrit cette première épître aux Corinthiens à la fin de son séjour de 3 ans, lorsqu'il était à Éphèse. Au verset 8, il dit, « Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à Pentecôte. » Et il leur dit, mais j'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine. C'est-à-dire, il devait quitter l'Asie mineure, là, et remonter, et traverser, et puis passer vers la Grèce, là, et puis redescendre de l'autre côté vers toutes ces églises de Thessalonique, de Philippe, de Bérée qu'il avait fondées, et puis descendre jusque là au Péloponnèse, là où vous voyez le golfe de Corinthe en Grèce, pour visiter l'église de Corinthe. Voilà, ça c'était son plan. J'irai chez vous. Regardez au chapitre suivant, c'est-à-dire en 2 Corinthiens chapitre 1, au verset 15, il est dit, 2 Corinthiens chapitre 1, verset 15, « Dans cette persuasion, je voulais aller d'abord vers vous, afin que vous ayez une seconde faveur. Je voulais passer chez vous pour me rendre en Macédoine, puis revenir de la Macédoine chez vous, et vous m'auriez fait accompagner en Judée. Est-ce que, en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté, ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il n'y ait en moi le oui et le non ? » En fait, vous voyez ici, on apprend qu'il a dû changer ses plans. Et ses adversaires, ceux qui le critiquaient, ont saisi cette occasion pour accuser Paul d'infidélité, de légèreté, d'un côté charnel. Il a dû changer ses plans, certes. Mais le fait est qu'il avait un plan à changer. Il avait une vision qu'il nourrissait. Il avait réfléchi à comment atteindre les Corinthiens, comment atteindre les Macédoniens avec l'Évangile. Il travaillait efficacement. Il ne travaillait pas au petit bonheur, la chance. Il réfléchissait à ses projets. Il élaborait un plan pour étendre l'œuvre du Seigneur. Il ne pouvait pas se satisfaire du travail déjà accompli. Il fallait poursuivre pour lui. Il fallait nécessairement étendre l'œuvre. Parce qu'il y avait des frères à encourager, il y avait des frères à enseigner, il y avait des villes dans lesquelles le témoignage de Christ devait être rendu. Il travaillait de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. J'aime cette perspective chez Paul. Il n'est pas rassasié. Il était, on dirait aujourd'hui, overbooké. Il était, mais il pensait encore aux contrées lointaines, à des endroits où l'Évangile n'avait pas été annoncé. Ça remplissait son cœur. Il ne pouvait pas se laisser dire « Ok, c'est bon, j'en fais assez. » Non. Et puis, verset 6, je lis « Peut-être séjournerai-je auprès de vous, ou même y passerai-je l'hiver, afin que vous m'accompagniez là où je me rendrai. » Et j'aime ici, il a un plan, certes, mais il reste attentif à la direction divine. Peut-être, et il met du conditionnel dans ses plans, dans ses propos, parce que dans sa pensée, il sait que l'avenir ne se présentera pas peut-être exactement comme il l'a imaginé. Au fond, il dit « si Dieu veut, je ferai ça ». Et c'est ce qui doit nourrir aussi notre pensée à nous, se dire « ok, c'est vrai, on pourrait faire ça, et si Dieu veut, on va faire ça ». Et c'est de cette manière-là, je crois qu'il nous faut concevoir l'œuvre de Dieu. Et puis il dit au verset 7, j'aime aussi cette idée, dans la progression, il dit « je ne veux pas cette fois vous voir en passant, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous si le Seigneur le permet ». Encore une fois, un peu de conditionnel. Paul travaillait de mieux en mieux, pas seulement parce qu'il voulait passer et saluer les frères, non, il voulait les approfondir dans la foi. Dans l'épître aux Corinthiens, la première épître aux Corinthiens, il répond à toutes sortes de problèmes et de questions qui lui sont posées. Heureusement d'ailleurs qu'il l'a fait par écrit, parce que pour nous c'est un grand privilège de pouvoir avoir toutes ces réponses. Mais il voulait passer du temps avec ses frères de Corinthe, parce que tout ne se règle pas en quelques minutes ou en quelques heures. Non, il voulait approfondir les Corinthiens dans leur foi. Il voulait que les Corinthiens soient ancrés dans les Écritures. Il va passer finalement 2 ans à Corinthe pour pouvoir assurer ce travail. Il voulait faire au fond à Corinthe ce que le Seigneur lui avait permis de faire à Éphèse, savoir annoncer tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Partout où il servait, il travaillait consciencieusement, c'est-à-dire de mieux en mieux. Effectivement, de mieux en mieux, et travailler de mieux en mieux, c'est peut-être travailler toujours plus loin, toujours étendre l'influence de l'Évangile, mais c'est aussi toujours plus profondément, c'est-à-dire pour que les frères et sœurs grandissent dans les vérités scripturaires. Deuxième chose que je voudrais relever ici, c'est que l'apôtre devait faire face à l'opposition. Et ça, c'est une manière de travailler de mieux en mieux, faire face à l'opposition. Verset 8, il dit « Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à Pentecôte ». Ce verset, entre parenthèses, il m'est très cher, parce que lorsque Sam et Rebecca sont venus sur Toulouse, on avait ce projet. J'avais dit à Samuel, si tu restes à Toulouse, j'aimerais qu'on crée une petite école, un peu comme ce que Paul a fait à Éphèse. Alors je dis, réfléchis à ça, et puis donne-moi un jour ta réponse. La réponse n'a pas tardé, il m'a simplement envoyé la référence, 1 Corinthiens 16:8, je resterai néanmoins à Éphèse. Et donc le nom était trouvé. Et Éphèse a démarré dans les mois qui ont suivi. Ça, c'était pour la petite anecdote. De nos jours, comme par le passé, il n'y a pas de ministère authentique sans opposition. Sans une opposition, sous une forme ou sous une autre. Quelqu'un a dit, là où, où Dieu plante une église, Satan commence une chapelle. Vous êtes sûr? Chaque fois que vous vous levez pour servir le Seigneur, vous pouvez être sûr que d'autres se lèvent. Diable se lève aussi pour essayer de mettre des bâtons dans vos roues. Satan y veille avec soin. Paul dit, il y a une large porte qui nous est ouverte, un accès efficace. Et les adversaires sont nombreux. On revient de quelques jours avec des pasteurs. Dans nos pastorales, il y a un moment toujours de partage où on raconte un peu la situation de famille, la situation d'église, notre situation personnelle, dans notre relation avec le Seigneur. Et là encore, c'est chaque année, mais là encore, il y a pas mal de larmes qui ont coulé. Il y a pas mal de frères qui vivent l'opposition, qui vivent des situations où c'est difficile, où on a juste envie d'arrêter. Vous savez, quand on rencontre des difficultés de l'opposition, qu'est-ce qu'on pense? On se dit, bon, je laisse tomber. Non, c'est trop compliqué, je laisse tomber. On dit même, visiblement, Dieu a fermé la porte. Mais les portes, grandes ouvertes, et d'un accès efficace pour Paul, vont de pair avec des adversaires nombreux. Campbell Morgan a dit, « Si vous n'avez pas d'opposition là où vous servez au mauvais endroit. » Vous cherchez une place tranquille? Vous cherchez une vie chrétienne où vous n'avez plus à combattre? Vous cherchez un endroit où il n'y a plus d'ennemis, plus d'adversaires? C'est une place où Dieu ne travaille pas. Pour Paul, le fait qu'il y ait des adversaires signifie qu'une porte grande et d'un accès efficace est ouverte. Sinon, il n'y aurait pas tant d'opposition. Relisez les Actes des Apôtres, chapitre 19, avec l'œuvre qui nous raconte l'œuvre à Éphèse. Éphèse est une ville idolâtre, avec au centre le temple de Diane, d'Artémis. La prostitution rituelle et les perversions sexuelles remplissent les cultes rendus à cette déesse. Toute la ville est gagnée à ce genre de choses. Il y a des adeptes de l'occultisme. En acte 19, je vous lis juste quelques versets. Acte 19, versets 18 à 20. Je lis, « Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. » Une pièce d'argent, c'est le salaire d'un ouvrier. J'ai fait le calcul, c'est 137 années de salaire qui ont été brûlées là, en quelques minutes. C'était des livres et des livres et des livres et des livres de magie. Imaginez ce que pouvait être cette ville avant tout cela. Il y avait des hommes endurcis et incrédules qui s'opposaient à lui et qui le décriaient constamment, de sorte qu'il a dû à un moment séparer les quelques disciples qu'il avait fait. Mais le témoignage chrétien portait du fruit. Et des hommes étaient délivrés de leurs superstitions, ils étaient pardonnés de leurs péchés, ils se détournaient de leurs idoles. Et du coup, le commerce de la ville commençait à être affecté, l'industrie de l'idolâtrie était menacée, un petit peu comme si ça arrivait dans une ville du sud-ouest, là. Regardez, juste après, il dit... verset 21, toujours en acte 19, après que ces choses J'ai oublié de lire le verset 20 qui est extraordinaire. Il dit « C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. » Ça, c'est ce qu'il nous disait exactement en 1 Corinthiens. « Quand j'y serai allé, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. » Voilà la vision. Hein. Il y avait Jérusalem, il y avait toute la Macédoine, il y avait l'Achaïe, mais il pensait aussi à Rome. Il envoya en Macédoine deux de ses aides, Timothée et Eraste, et il resta lui-même quelque temps encore en Asie. Ici, il dit clairement, enfin, on peut vraiment supposer que Timothée et celui ou Eraste sont ceux qui ont apporté la lettre de 1 Corinthiens aux Corinthiens. Et donc, ils sont partis, et Paul, lui, dit, ben moi, je vais devoir rester encore à Éphèse, parce qu'il y a beaucoup de travail encore à faire, et puis l'opposition est forte. Alors, après cela, il y a eu une manifestation terrible dans la ville d'Éphèse. Une manifestation qui visait tous les chrétiens, cette manifestation, elle a failli mal tourner. Que s'est-il passé? C'est 2 Corinthiens qui nous renseignent encore. 2 Corinthiens chapitre 1, cette fois-ci encore, mais le verset 8 à 10. Il dit ici, « Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie. » Éphèse, Asie. « Que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie, et nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. » C'est lui, Dieu, qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui, de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. C'est extraordinaire, je trouve cela. Et Paul a été conduit à l'extrémité. Quand il dit « travaillant de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur », c'était travailler dans de l'opposition. C'était pas facile. C'était loin d'être facile. Paul travaillait de mieux en mieux. La version du semeur rend le 1 Corinthiens 15, 58 comme cela. Il dit « C'est pourquoi mes frères, mes chers frères, soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler, travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais inutile. » J'aime ça. La peine que vous vous donnez. L'apôtre Paul, il travaillait face à l'opposition. Et quand on travaille face à l'opposition, il y a des larmes, il y a des souffrances, il y a des difficultés, il y a un combat véritable à mener. Et puis une dernière chose que je voudrais relever avec vous ce matin, c'est que l'apôtre, non seulement il nourrissait une vision élargie, non seulement il faisait face à l'opposition, mais aussi il veillait à la cohésion de son équipe. C'est incroyable. Dieu a doté cet homme de dons spectaculaires. Mais jamais l'apôtre Paul n'a travaillé tout seul. Il a toujours travaillé avec une équipe. Vous lisez les Actes, vous trouvez Paul et Barnabas, Paul et Silas, Paul et Timothée, Paul et parfois il y a Paul et Luc et puis toute une équipe avec lui. Et quand vous essayez de creuser un peu, vous voyez qu'il est toujours avec des gens. Et puis avec ces gens, des plus jeunes que lui dans la foi, il les envoie travailler aussi. C'est-à-dire qu'il y a une cohésion vraiment dans le travail. Un jour, il s'est disputé avec un de ses ouvriers, un de ses collègues, Barnabas. On aurait pu se dire, bon, vous savez, quand vous avez connu des tensions, oui, bon, c'est bon, hein, on part chacun de notre côté. C'est ce qu'ils ont fait. Mais l'un et l'autre, ils ont repris quelqu'un. Barnabas est parti avec Marc et Paul est parti avec Silas. C'était inconcevable de ne pas travailler avec une équipe. Dieu nous a envoyés ensemble dans son œuvre. Et ce qui me touche dans les versets 10 à 12 ici, il dit « Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. » Travailler en équipe, c'est indispensable parce que l'œuvre est tellement grande qu'on n'est pas suffisant tout seul. On n'a pas tous les dons, on ne peut pas tout faire nous-mêmes. La moisson est immense, il faut beaucoup d'ouvriers. Mais aussi, Paul, il travaille avec une équipe parce qu'il sait que c'est indispensable pour les ouvriers, pour la croissance des ouvriers, que de travailler dans l'œuvre du Seigneur. Et donc, il va leur envoyer Timothée, mais il connaît bien Timothée, c'est son enfant dans la foi. Alors, il prend soin de Timothée. Et il sait que les Corinthiens, ce n'est pas des gens faciles, quoi. Ce n'est pas des frères faciles. Et il risque de ne pas être très aimable avec le jeune Timothée. Et lui, il est un peu timide, il est jeune. Et c'est ce qu'il leur dit. Il dit, peut-être il est un peu timide. Et peut-être il est jeune. Mais, et c'est ce qu'il dit au verset 10, mais il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur, avec autant de passion, avec autant de zèle, avec autant de persévérance, avec autant de lutte, avec autant de combats à mener. Il travaille comme moi dans l'œuvre du Seigneur. Alors recevez-le comme moi. J'aime ça, je trouve ça très délicat chez l'apôtre Paul. Il a soin de son équipe, il est au fond bienveillant. Il imagine la situation, les difficultés qu'ils vont rencontrer, il se met à leur place et puis il envisage des solutions pour faire face aux difficultés que ces bien-aimés pourraient rencontrer. Dans un travail d'église, dans un voyage missionnaire, on est une équipe. On se serre les coudes. Chacun est différent. Chacun accomplit une tâche différente. Mais tous, nous sommes serviteurs dans l'œuvre du Seigneur. L'autre chose que je voudrais relever, c'est le verset 12. Pour ce qui est du frère Apollos, je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous avec les frères. Mais ce n'était décidément pas sa volonté de le faire maintenant. Il partira quand il en aura l'occasion. Je me mets dans la pensée de Paul et je l'imagine. Il ne peut pas s'empêcher de voir la part que chacun pourrait prendre dans l'œuvre du Seigneur. Il voit là, lui là. Faire ça, oh, il serait bon. Et puis, il va le voir. Il dit, écoute, vraiment, tu pourrais faire un travail extraordinaire dans ce coin-là. Il croyait fermement qu'Apollos devait accompagner les autres frères, Timothée et Eraste. Et je pense qu'il avait de bonnes raisons de le penser. Apollos, c'était, selon les versets de Actes 18, Apollos, c'était un homme éloquent, un homme versé dans les Écritures. Acte 18, verset 24. C'était un homme, verset 25, instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Je trouve ça, voilà, c'est le gars. C'est, voilà. Voilà un gars qui a toutes les qualités pour conduire cette œuvre à Corinthe. Ah, lui, il serait super. En plus, je crois que s'il était envoyé à Corinthe avec Timothée et Eraste, il pourrait faire un meilleur travail encore, parce que lui, il serait là avec eux, il pourrait les encourager. Verset 28, il est dit qu'il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Waouh, c'est super! Et on peut comprendre pourquoi il est allé le voir apparemment à plusieurs reprises. Je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous avec les frères. Peut-être un peu comme j'ai pu le faire avec certains pour un voyage missionnaire. L'apôtre était convaincu que c'était ce qu'Apollos devait faire. Mais, visiblement, Apollos voulait encore rester un peu de temps à Éphèse. Paul dit, ce n'était décidément pas sa volonté de le faire maintenant. Ce qui me fascine ici, c'est que l'apôtre a respecté sa décision. Paul n'a pas dit, hey, écoute-moi, Apollos, bon, c'est moi l'apôtre. J'ai vu le Seigneur. J'ai eu des révélations que personne d'autre n'a eues. Tu ne sais pas encore, mais je vais écrire 13 des épîtres du Nouveau Testament. Tu devrais m'écouter quand même. Fais donc ce que je te dis. Non, Paul, il ne se prend pas pour le médiateur entre Dieu et les chrétiens. Il finit par dire aux Corinthiens, « Il viendra. » Quand il en aura l'occasion, si le Seigneur le dirige comme ça, entre-temps, il continuera à servir là où le Seigneur l'a placé, comme le Seigneur le veut. Paul y fait confiance à ses compagnons de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et je trouve ça vraiment fort chez l'apôtre. Il dit, j'ai cette confiance en vous, que dans votre relation avec le Seigneur, avec la compréhension de l'œuvre du Seigneur, avec le désir de travailler de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur, je suis convaincu que vous allez vous placer devant le Seigneur et chercher sa volonté pour savoir quelle part vous pouvez prendre dans l'œuvre du Seigneur. Et donc quand la personne répond « Non, je vais pas y aller » ou « En tout cas, je ne vais pas y aller maintenant. » Paul, il a déjà posé ce postulat. Cette personne est allée voir le Seigneur, s'est placée devant lui, s'est laissée éclairer par lui et il a pris sa décision devant le Seigneur. Et parce qu'il a pris la décision devant le Seigneur, je respecte sa décision. Même si pour moi, je pensais que c'était exactement ce qu'il aurait dû faire. Paul, il sait que c'est le Seigneur, le capitaine. Et de son côté, Apollos, il a beaucoup de respect pour Paul. Il a de la confiance dans son jugement et dans sa sagesse. Mais il a d'abord confiance dans le Seigneur pour lui donner la direction personnelle. Voilà ce que je crois être notre responsabilité, travailler de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Travailler de mieux en mieux, c'est élargir sa vision. Et quand on élargit sa vision, on doit élargir aussi son cœur. C'est travailler consciencieusement. Travailler de mieux en mieux pour que chaque cœur puisse de mieux en mieux s'attacher au Seigneur. Travailler de mieux en mieux, c'est faire face à l'opposition, quelle qu'elle soit. C'est aussi travailler en équipe, voir le bien de son frère dans l'œuvre de Dieu. Et puis, et je voudrais vous laisser avec cela, cette pensée du verset 58, « Votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Vous êtes actif dans votre... Vous avez une vie professionnelle engagée, vous avez... Et parfois, peut-être, vous vous dites, mais à quoi ça sert tout ça ? Mais si vous mettez Dieu dans votre vie constamment, alors ça prend du sens et votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Et si le salaire que vous gagnez, ça sert en partie pour l'avancement de l'œuvre, alors ça n'est pas vain dans le Seigneur. si les congés payés que vous avez, ça sert pour le travail missionnaire ou pour des visites d'affermissement, pour de l'évangélisation, ou pour ressouder votre famille, alors ça n'est pas vain dans le Seigneur. Non, ça n'est pas vain. C'est-à-dire que ça porte du fruit, et ça jusque dans l'éternité. Ça n'est pas vain, c'est du fruit qui demeure. Et cela pour l'éternité. Dieu n'est pas oublieux pour ne pas tenir compte de vos œuvres, de vos efforts, de votre peine ici-bas pour accomplir son œuvre. Je pensais, le Seigneur lui aussi a travaillé mieux que quiconque. Il avait la vision la plus élargie qui soit. Le monde. Il aimait le monde. Il a travaillé le plus consciencieusement qui soit. Son œuvre est parfaite. On ne peut pas améliorer, on ne peut pas ajouter quoi que ce soit à son œuvre. C'est parfait, le travail est parfait. Il a fait face à l'opposition, plus que personne. Et il a triomphé et il a vaincu. Il a travaillé en équipe. C'était obsessionnel chez le Seigneur. Il avait toujours des disciples avec lui. Toujours. Mais à la fin de son ministère, il a été crucifié et les disciples ont dit bah, on imaginait que ça allait faire quelque chose. On imaginait qu'il allait y avoir quelque chose, qu'il allait y avoir du fruit. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Les disciples qui étaient avec lui, Pierre a dit écoutez les gars, bah, je retourne à la pêche. Il avait dit, je vous ferai pêcheur d'hommes. Lui, il pensait, je retourne à la pêche, je vais pêcher des poissons. Et c'est ce qu'il est parti faire. Et d'autres ont dit, on t'accompagne, on n'a rien d'autre à faire. C'est-à-dire que dans leur pensée, tout était vain. Tout était vain. Et puis, 3 jours plus tard, Christ ressuscite d'entre les morts. Et tout éclate. Les disciples le reconnaissent. Aussitôt ils le voient, ils mangent avec lui, ils partent aussitôt et ils proclament l'évangile partout dans le monde parce qu'ils savent que c'est pas vain à cause de la résurrection, c'est pas vain. Et l'apôtre Paul il dit ça, c'est pas vain à cause de la résurrection, votre travail n'est pas vain à cause de la résurrection, il y a une résurrection des morts et vous pouvez pas juger de votre travail ici-bas. Vous devez attendre la résurrection. Et quand vous serez dans la gloire, vous verrez que votre travail n'est pas vain. Oh, béni soit le Seigneur qu'il ne nous laisse pas sans encouragement et sans voir du fruit dans la vie. Mais tout le fruit que l'on voit n'est pas forcément le fruit qui demeurera pour l'éternité. Mais il y a un fruit qui demeurera dans l'éternité. Et ça, c'est le fruit de votre engagement, de votre travail dans l'œuvre du Seigneur, de mieux en mieux. Pensez à cela. Votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.